Bienvenue au Cheftaine, qui offre une semaine de leurs vacances pour se former, pour être plus compétente, pour faire grandir les jeunes qui leur seront confiés. Merci pour eux. Quel bonheur, c'est toujours du bonheur pour moi d'entendre une foule qui chante tout son cœur. C'est une certaine anticipation du ciel. Nous sommes unis, nous ne ferons que ça au ciel, de nous émerveiller et de rendre grâce, de louer le Seigneur, parce que enfin, nous comprendrons que tout dans ses desseins, dans son action, est sagesse et bonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos yeux, comme ceux des disciples d'Emmaüs que nous allons écouter, sont souvent aveuglés, sont souvent limités. Mais nous avons ce bonheur, cette grâce immense, chaque dimanche, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur qui vient humblement, mais réellement, refaire nos forces. Eh bien, bénissons-le, et bénissons-le d'abord pour la grâce baptismale qui nous incorpore justement à son mystère pascal, son mystère de passage de la mort à la vie. Rendons grâce pour notre baptême. Mes frères, demandons au Seigneur de nous purifier par cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, vient arrêter et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de Dieu, de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Ne sommes-nous pas souvent semblables à ses disciples d'Emmaüs? Disciples de Jésus, nous aussi, de longue date parfois, il nous faut bien reconnaître que les épreuves de la vie, épreuves personnelles, familiales, professionnelles, et les souffrances innombrables de notre monde d'aujourd'hui mettent à dure épreuve aussi notre foi, notre confiance en la présence agissante de Dieu dans nos vies et dans la vie du monde, et notre foi en la puissance de la prière. Prions tellement pour la paix qui ne vient pas. Ça met à l'épreuve notre foi. Est-ce que c'est utile de prier? Est-ce que le Seigneur écoute notre prière? Dans son audience générale du 5 avril dernier, le pape François remarquait dans les cœurs de chacun combien d'attentes déçues, combien de déceptions, et encore cette sensation que le passé aurait été meilleur et que dans le monde, même dans l'Église, les choses ne vont plus comme avant. En somme, aujourd'hui encore, poursuit-il, l'espérance semble scellée sous la pierre du désespoir. Il ajoute, « J'invite donc chacun d'entre vous à penser où est ton espérance. As-tu une espérance vivante ou l'as-tu laissée sceller dans un tiroir ?» Pour les disciples d'Emmaüs, nous le savons bien, tout était fini, tout était gâché avec la croix, et dans leur esprit, les choses n'auraient pas dû se passer ainsi. Ils buvaient ces paroles depuis sans doute un certain temps, et puis ils avaient vu tout le bien qu'ils faisaient, et avec puissance, Il donne la vie, il se met la vie. Non, c'est l'échec total. Tout comme Pierre, un jour, s'était violemment opposé à Jésus qui annonçait justement sa passion et sa mort. Mais non, Seigneur, c'est impensable. Enfin, ça t'arrivera pas. Ça doit pas t'arriver. Mais Jésus de dire aux disciples désespérés, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? La gloire de Dieu, c'est pas ce qu'on imagine. Ça n'a rien à voir avec la gloire humaine qui fait beaucoup d'esbroufe. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence et de son amour, d'une présence qui est pleine d'amour et donc qui n'écrase pas, qui n'en jette pas plein la vue. Pas ça, la gloire de Dieu, c'est, oui, la preuve, la manifestation, j'allais dire humble, de son amour, de sa présence amoureuse. Dans le dessein de salut du Père et du Fils, la croix du Christ était le moyen de manifester aux hommes que l'amour de Dieu va jusqu'à l'extrême. Ce qu'a compris saint Jean, après des années de méditation, en écrivant son évangile, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à l'extrême. Jésus, de fait, avait annoncé à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans nos vies personnelles, familiales, communautaires, sociétales, nous pensons peut-être, plus ou moins confusément, qu'être disciple de Jésus nous épargnera les épreuves. Nous le souhaitons, et puis après tout, souhaiter, éviter la souffrance, c'est normal. Dieu n'a jamais voulu la souffrance de l'homme. Il ne la veut jamais. Oui, c'est normal. Mais ne rêvons pas que nous serons épargnés de je ne sais quoi parce que nous sommes disciples de Jésus. Le Maître nous a bien dit que le disciple n'est pas au-dessus du Maître. Lui, l'innocent, total, a été broyé par les hommes. Comment un disciple de Jésus pourrait-il rêver d'être épargné par les épreuves de la vie? Et il nous a même annoncé des persécutions à cause de lui. Et nous savons bien, j'allais le dire hélas, oui, parce que c'est d'abord et objectivement un mal, une injustice terrible, que cette persécution qui se déchaîne contre tant de chrétiens aujourd'hui. Jésus nous l'avait annoncé, il est signe de contradiction. Mais ce qu'il nous a promis, non, ce n'est pas d'être épargné par les épreuves, mais c'est d'être avec nous dans ces épreuves, d'être avec nous tous les jours. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, eh bien, il nous rejoint dans nos vies, de tous les jours, mais tout spécialement lorsque notre cœur est dans le noir. Il nous rejoint, mais de façon inattendue, souvent déconcertante, au sein de nos épreuves, oui, pour éclairer enfin notre cœur, ressusciter notre espérance et nous remettre en marche avec lui et pour lui. Le pape François, dans cette même audience du 5 avril, que je vous invite à lire, parce que personnellement, elle m'a beaucoup touché, je trouve qu'elle nous rejoint, et c'est pourquoi je l'emprunte largement. Dans la croix se concentrait la fin de tout, dans l'esprit des disciples, à commencer par Pierre. Dans la croix se concentrait la fin de tout, mais peu de temps plus tard, les disciples allaient découvrir dans la croix, justement, un nouveau départ. L'espérance de Dieu germe de cette manière, elle naît et elle renaît dans les trous noirs de nos attentes déçues. Pensons justement à la croix, poursuit-il, c'est de l'instrument de torture le plus terrible que Dieu a pris le signe le plus grand de l'amour. Ce bois de la mort est devenu l'arbre de vie et nous rappelle que les débuts de Dieu commencent souvent avec nos fins. Voilà comment il aime accomplir des merveilles. Nous savons bien combien ce chemin d'Emmaüs, nous l'avons entendu souvent et c'est tellement juste, nous savons combien ce chemin d'Emmaüs, sur lequel justement Jésus rejoint ses disciples découragés, plus que ça, moins que ça, ce chemin d'Emmaüs évoque le chemin de l'Eucharistie. Ce chemin de l'Eucharistie est la grande pédagogie du Seigneur pour ressusciter nos cœurs et notre espérance. Pourquoi l'Église, et dès les premiers temps apostoliques, a saisi, a compris qu'elle était convoquée, c'est ça que veut dire d'ailleurs Église, qu'elle était convoquée par son Seigneur ressuscité chaque dimanche, chaque semaine, pour faire mémoire de cette résurrection, afin que nos cœurs, par l'Eucharistie, ressuscitent de tout ce qui les alourdit, de tout ce qui les écrase. On parle souvent, évidemment, de la liturgie de la parole que Jésus vit avec les disciples d'Emmaüs en leur ouvrant l'esprit à l'intelligence de l'Écriture qui annonçait mystérieusement, effectivement, ce mystère pascal du serviteur de Dieu. Et puis de cette fraction du pain que Jésus vit aussi avec les disciples et qui leur ouvre les yeux. Et peut-être on oublie un peu parfois la première partie aussi, qui est, et d'ailleurs Jésus fait preuve d'un petit peu de, j'allais dire de malice, c'est pas le terme sans doute qu'il faudrait, en tout cas d'un certain humour. Il est déconcertant, c'est vrai, mais il fait semblant de ne pas être au courant. Et du reste, je trouve déjà que le fait de leur demander de quoi ils parlent, c'est pas très... Enfin, on ferait pas ça, quoi. Alors, je sais pas, en Orient, peut-être que c'est courant, mais enfin, de s'approcher de gens qui marchent et puis de leur dire de quoi vous parliez, j'oserais pas faire ça. Jésus nous déconcerte. Mais c'est lui qui a raison. Il sait ce qu'il fait. Et... il fait celui qui sait rien, qui est au courant de rien. Il se laisse traiter d'étranger, sans réagir. Et ceci pour qu'ils vident leur sac, pour qu'ils disent tout ce qui écrase leur vie, leur cœur, toute leur déception, toute leur amertume, et sans doute aussi leur colère, leur révolte. Jésus ne court-circuite pas cette étape. Et j'aime y voir le sacrement du pardon qui nous prépare à vivre avec fruit l'Eucharistie, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, du corps livré. Car dans le sacrement du pardon, nous sommes appelés aussi à laisser Jésus mystérieusement faire la lumière, nous lui offrir tout ce qui pèse lourd dans nos cœurs, tout ce qui nous abîme, tout ce qu'on ne comprend pas, toutes nos révoltes, toutes nos... Voilà, lui donner tout ça. Et alors ça nous met une fois, il le sait, Jésus est un pédagogue évidemment éminent, et une fois qu'on a pu... vider notre sac de lourdeur et de péché, eh bien, on est en état de nous laisser enseigner par sa parole qui va redresser notre manière de voir. Oui, Dieu n'est pas, il est toujours au-delà de ce dans quoi on l'a enfermé, de ce qu'on lui a dit qu'il était bien de faire pour nous. Il sait mieux que nous. Et ce qu'il fait est toujours sage et bon. Alors, Eh bien, oui, cette Eucharistie qu'il nous est donnée de pouvoir vivre chaque dimanche et plus souvent, quand on le peut. Il y a pas mal de chrétiens qui découvrent l'Eucharistie, qui en ont faim. J'aime à rappeler, je l'ai dit ici déjà plusieurs fois, que le père Caffarel, qui parlait à des couples, qui étaient comme tous les couples au sein du monde, disait que l'Eucharistie quotidienne, en 1947, par là, l'Eucharistie quotidienne, vous êtes bien assis, l'Eucharistie quotidienne, c'est le régime normal d'un chrétien normal. Vous vous rendez compte ? Je répète, l'Eucharistie quotidienne, c'est le régime normal d'un chrétien normal. Père Caffarel, qui sans doute sera béatifié un jour, il parlait à des couples. Bon, alors, je ne dis pas que tout le monde peut vivre ça. En tout cas, ça doit nous laisser réfléchir et que la messe dominicale, c'est le minimum que le Seigneur sait dont nous avons besoin pour ressusciter nos cœurs chaque semaine. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Amen.